Bonjour à tous. Alors, je vous invite à suivre la lecture dans l'épître de Tite, au chapitre 3, du verset 3 à 8. Nous aussi, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté, dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns et les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus des héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà qui est bon et utile aux hommes. On va prier. Merci Seigneur pour ce que nous avons vécu dans ce culte, pour ce témoignage puissant d'Emmanuel qui nous a bien retourné, Seigneur, et qui nous montre toute cette puissance de renouvellement, de régénération que tu as accompli dans chacun de nous pour tous ceux qui t'ont accepté et qui est un merveilleux message d'espérance. Maintenant, Seigneur, tu veux ouvrir nos cœurs pour que nous soyons attentifs à ta parole avec ce qu'elle a d'avertissement, certes, mais aussi, surtout, avec toutes ses promesses et aussi, Seigneur, avec la juste reconnaissance de ce que tu as accompli dans nos vies. Et que cela, Seigneur, soit aussi un moyen de rayonner, un moyen de témoigner, Seigneur, des belles œuvres que tu nous demandes d'accomplir et que tu as préparées d'avance pour nous. Alors, en lisant ma Bible, j'ai été interpellé par cette expression « belle œuvre ». C'est quelque chose que je découvrais. « Bonne œuvre » ou d'autres qualificatifs sont possibles. Mais là, j'ai vu « belle œuvre ». Je me suis demandé... J'ai trouvé que ce mot était lumineux, surtout que je venais de voir et de revoir et de lire tout ce qui se passe dans le monde. Oui, les œuvres sont loin d'être belles. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire? Et donc, dans le passage, j'ai trouvé que Paul, au départ, c'est vrai qu'il insiste pas mal sur le mal, sur ce qu'était notre ancienne nature. Ce qui m'a conduit à parler ce matin de la montée du mal dans notre monde. Cette montée du mal, Jésus-Christ, il en parle, hein, et il nous demande de nous y préparer. Et même si lui-même ne sait pas l'heure et le jour à laquelle il va venir. Mais en tant que chrétien, je pense que par rapport au temps que nous traversons, on doit intensifier notre vie spirituelle, donc et par conséquent persévérer dans nos engagements et d'église et aussi de mission. Mais surtout, je dirais, de renforcer nos liens fraternels pour nous sentir en sécurité et soutenus aussi dans notre vie quotidienne. Alors, il n'a échappé à personne que nous vivons dans un temps de bascule. On vit une sorte de séisme civilisationnel. Oui. J'ai été frappé d'entendre cela de la bouche de tous les experts en politique, en sociologie, comme si les gens non-croyants, journalistes, experts, politiques, pressentaient la montée du mal dans le monde d'une manière un peu inédite. Et je pense à ce qui se passe en Israël, qui nous interpelle, et les bouleversements géopolitiques le confirment. Alors, sans chercher, c'est pas mon propos, des clés ou des signes apocalyptiques, ce n'est pas mon intention ce matin, il faut tout de même admettre que les prophéties bibliques se mettent en place. et qu'Israël est bien une pierre pesante pour les nations. Ce qui se passe en Israël nous touche et concerne aussi nos pays et toute l'humanité. Et quand j'ai préparé ma prédication, je n'ai pas pu me détacher de ce qui se passait au Moyen-Orient, parce qu'il y a une donnée prophétique et spirituelle dans cette situation. Clairement, pour moi, agresser l'État d'Israël préfigure des temps de la fin. Et surtout, ce qui m'interpelle, c'est surtout une montée en puissance du mal. Alors vous allez me dire, mais quel rapport il y a entre ce passage et la situation dans le monde et au Proche-Orient? Ben, tout simplement parce que je voulais venir un peu sur ce verset 3, qui est quand même assez lucide, qui dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns et les autres. » Bon, l'apôtre Paul, il n'y va pas de main morte, hein. Alors, ce verset, ça donne un aspect de ce que peut être l'être humain sans Dieu. Donc, par conséquent, il donne un éclairage, je dirais, sur les exactions et les barbaries qui sont perpétrées, par exemple, par ce qui se passe au Moyen-Orient, par le Hamas. Vous pourriez me dire, mais bien sûr, il y a bien d'autres passages qui sont bien plus éclairants que l'épître de Tite. Pourquoi je la choisir ? Je suis d'accord, mais mon propos s'adresse aux chrétiens que nous sommes et de montrer que nous, ce que nous étions avant de connaître Jésus-Christ et de montrer aussi ce qu'est la nature de l'homme sans Dieu. Alors pour cela, j'ai choisi deux événements géopolitiques. Ce qui se passe dans le Haut-Karabakh où 120 000 Arméniens ont été chassés. Et j'ai choisi aussi les actes terroristes du Hamas qui visent la destruction du peuple d'Israël. Alors ce matin, en constatant la montée en puissance du mal, donc des forces sataniques qui se déchaînent sur le monde, je pense que les chrétiens doivent se préparer. Ça, c'est un premier fait. Donc ça, c'est une sorte d'avertissement, enfin c'est un avertissement. Alors c'est peut-être un peu choquant ces prises de position, mais bon, c'est comme ça que je le ressens, c'est une conviction personnelle. Et le deuxième point qui est quand même le plus important et qui m'a interpellé, c'est aussi le fait qu'il est parlé de pratiquer de belles œuvres, comme si on venait se mettre en antithèse par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est ce que nous devons retenir en tant que chrétiens. Alors bien sûr, vous allez me dire qu'il y a d'autres passages plus prophétique que l'épître de Tite. En effet, l'apôtre Paul a écrit cette lettre pour donner des conseils à son collaborateur et non pas pour parler sur les temps de la fin des temps. Mais en lisant ce passage, j'ai été donc rattrapé par l'actualité. Je trouve notre monde et notre environnement particulièrement anxiogènes. Même si ces événements sont loin de chez nous, On en subit quand même les conséquences en Europe. Et en tant que chrétien, il faut être armé spirituellement pour témoigner d'une autre forme de vie, pour être des témoins dignes de la mission que le Christ nous a donnée. Alors, Paul, dans cet épître, nous montre que si nous étions aussi méchants et cruels que ce qu'il dit au verset 3, Jésus nous a complètement libérés du péché et fait de nous de nouvelles créatures, capable d'accomplir de belles œuvres. Et on verra de quoi il s'agit. Alors, je vais être clair, hein, je ne vais pas parler de la fin des temps, hein, dans mon message, ni du millénium, ni de la tribulation, ni du retour du Christ, mais je crois simplement, je vais parler d'un contexte qui aujourd'hui est chargé spirituellement et qui nous demande d'être préparés comme Jésus nous l'a enseigné. Et Paul conclut son épître, donc, en rappelant justement que d'où nous venons, ce que nous étions avant de connaître le Christ, hein, dans ce chapitre 3. Donc je crois qu'il faut toujours être attentif, car ce qui est étrange, c'est que dans ce petit passage, Paul se montre très précis sur les défauts qui nous caractérisaient. Donc, il nous invite à une vigilance et pour savoir qu'il y a toujours une persistance du mal dans la vie, quoi. Donc, j'ai parlé d'un climat spirituel chargé. Et je pense qu'il faut savoir regarder les choses en face. Hein. C'est pas la vie chrétienne, c'est pas une abstraction. On est quand même dans des moments où il faudra prendre des positions. Et il suffit de voir ces événements à résonance mondiale. Bon, on a tous vu la pandémie, la guerre en Ukraine. On assiste aussi à une forme de génocide déguisé par les Azéris à l'encontre des minorités arméniennes et justement aussi l'agression du Hamas contre Israël. Bon, bien sûr, il y a d'autres conflits, mais j'ai choisi ces deux-là. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur ces deux faits géopolitiques, parce que pour moi, ce ne sont pas uniquement des faits politiques ou militaires. Je les prends comme des signes de la montée du mal, comme un élément de bascule dans notre civilisation. Alors, bien sûr, on va dire c'est un peu complotiste, peut-être, j'en sais rien, mais c'est un peu le ressentiment que j'avais de ne pas avoir uniquement une lecture journalistique et critique. Il faut en être conscient, parce que Jésus lui-même l'a prédit et qu'il a demandé aux élus de se tenir prêts et de veiller et de prier. C'est pour cela que je vous parle de la montée spectaculaire du mal dans nos sociétés. Et derrière ces faits d'actualité que je vous ai cités, il y a les forces sataniques qui œuvrent. Alors ce que je le dis très clairement, n'engage que moi, c'est le fruit d'une conviction personnelle. Je dirais pourquoi j'ai insisté là-dessus. Parce qu'en résumé, il est important que quand on veut donner des conseils positifs, il faut tenir compte aussi des avertissements. C'est ce que fait Paul. Dans ce petit passage, il y a quand même pas mal de place sur des avertissements. Et Paul, lui, se gêne pas, il le fait très souvent, parce qu'il connaît la vulnérabilité de l'Église, tout en sachant que cette Église est indestructible, parce qu'elle est l'épouse de Christ. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous rassure. Ce que dit Paul dépasse les contextes sociopolitiques. Il nous donne des clés spirituelles et humaines qui permettent aux chrétiens de ne pas s'enfermer sur eux-mêmes. On pourrait dire, quand on voit tout cela, on va se blottir les uns contre les autres et on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Alors c'est vrai qu'on a vraiment, je pense, plus ça va aller, plus besoin de resserrer nos liens, mais sans se fermer sur soi en disant ça c'est le monde et nous on vit dans l'Église. Parce que ce qui se passe quand même, ça nous interpelle. Alors c'est vrai que Paul, quand il écrit, il est rarement positif et optimiste sur la nature humaine. Hein. Bon, il en savait quelque chose, hein, parce que c'était quand même quelqu'un qui avait persécuté les chrétiens. Et souvent, ce qu'il nous dit, il dit que même avec la meilleure volonté, on a envie de faire des choses, on est souvent en dessous de ce qu'on de nos prétentions. Le mal nous a tellement corrompus et le péché est entré en nous dès la naissance. Mais Paul veut nous dire que ce que nous savons, ce que nous connaissons sur notre nature humaine, c'est vrai qu'on a parfois du mal à l'intégrer. Et même si je ne le fais pas exprès, on a souvent tendance peut-être à s'auto-satisfaire de notre vie chrétienne. Alors, mais derrière nos valeurs qui sont réelles, on ne peut pas les exercer sans la vie du Saint-Esprit. Et là, Paul, il enfonce le clou, hein. Il dit, c'est parce que nous avons été complètement régénérés qu'on peut faire de bonnes choses pour Dieu. C'est-à-dire de belles œuvres. Et toutes nos qualités humaines ne parviendront pas à combattre la force du péché qui est en nous si on n'a pas été régénéré en Christ. Alors bon, l'apôtre Paul, il s'exclame, il dit insensé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se dire qu'on ne doit rien à personne. Parfois, on a ce type de réaction, je dirais même en tant que chrétien. Or, je suis toujours redevable à mon Église et à Jésus-Christ. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas un électron libre. Et l'apôtre Paul dénonçait ces attitudes, surtout quand il écrit à Tite qui devait remettre de l'ordre dans les églises de Crète. Alors après, il dit « désobéissant, aguerri, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans la vie, digne d'être haï et nous haïssant les uns et les autres. » Alors c'est vrai que quand on témoigne de notre foi chrétienne, hein, et quand on dit qu'on est croyant, qu'est-ce qu'on reçoit comme réponse? Alors il y en a qui vous disent la religion c'est de l'hypocrisie, que Dieu n'existe pas, que les chrétiens ne sont pas à la hauteur, et les gens vous répondent que ce que Paul dit sur l'être humain ne les concerne pas. Mais ça c'est aussi une façon de dénier Dieu. C'est-à-dire qu'on a peur souvent de se remettre en question. Et c'est vrai que c'est la conversion, on l'a vu hein, dans le témoignage, c'est quelque chose qui est impossible, qui est difficile. Hein. Et souvent, il faut de la souffrance, il faut de l'échec, voire du désespoir pour renoncer à soi-même et accepter le principe de notre séparation d'avec Dieu, d'accepter le péché qui est en nous. Et c'est à ce moment-là que Dieu a besoin de briser le cœur de la personne pour qu'il puisse reconnaître, je dirais, la tragédie de son péché. Paul dit aussi « désobéissant ». Alors, obéir à soi-même, c'est clair, c'est désobéir à Dieu. Et je dirais que c'est là un peu tout le drame du croyant, mais ça peut être aussi une tendance du chrétien quand il durcit son cœur. Alors, pourquoi Paul en remet une couche sur nos défauts? Alors que Dieu nous a tout pardonné, il dit qu'il nous a régénérés, justifiés et sanctifiés. Pourquoi revenir sur le passé? Ben, il faut savoir que quand Paul il écrit, à son époque, il y a dans les pays de l'Empire romain, là où Paul voyageait, il y avait aussi des courants judaïques chez les premiers chrétiens qui pensaient que si on obéissait à la loi, eh ben, on obéissait à Jésus, on obéissait et on arrivait à satisfaire la justice de Dieu. Alors, cette tendance peut être présente, on peut avoir chez les chrétiens une forme de légalisme aussi, hein, avec des références humanistes. Et je dis ça parce que parfois on peut juger les gens ou se juger soi-même à travers un arrière-plan. On a tous un arrière-plan, hein. Moi, j'ai un arrière-plan éducatif et social précis et je me juge et je juge les autres à travers, je dirais, ces lunettes. Donc, on a tous un arrière-plan et bon, ben, il faut le réexaminer et s'en remettre à Dieu. Alors, je dirais, j'ai posé la question, que faire par rapport à ce type d'attitude? Déjà, c'est s'accepter soi-même dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est se soumettre au Saint-Esprit. Lui qui nous dicte d'autres orientations, tout en respectant malgré tout notre personnalité. Alors tout ça, c'est bien beau, mais quand Paul il écrit tout ça, il faut se mettre à la place de Tite, qui reçoit cette lettre. C'était pas évident pour ce compagnon de Paul, hein. Donc parce que Tite est un collaborateur de Paul, comme Timothée, il le considérait comme son fils spirituel, hein, c'est ce qu'il dit dans son épître au chapitre 1 et au verset 4, à Tite, mon enfant légitime, en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, il y a un lien affectif très fort entre les deux personnes. Et on peut dire, donc, je pense que ce sont les chrétiens d'Antioche qui ont confié Tite comme compagnon pour Paul et avec Barnabas. Et Tite a suivi Paul jusqu'à Jérusalem. Alors, on sait aussi que certains chrétiens judaïsants ont voulu que Tite se fasse circoncire, mais donc il a résisté. Mais donc il n'a pas cédé. Alors, bon, vous allez dire, cela n'a l'air de rien, mais ça prouve quand même qu'une fois qu'on est converti, il arrive qu'on garde quand même de vieilles habitudes, quoi, hein, pour lesquelles on doit lutter. Donc, quand Paul écrit sa lettre à Tite, celui-ci devait aller en Crète pour remettre un petit peu d'ordre dans ces églises et qui, on a quelques indices qui pensent que les Crétois étaient quand même de bons vivants et des grands jouisseurs et que Tite devait remettre un petit peu d'ordre. Bon, j'ai pas plus d'indices sur la situation spirituelle et humaine des églises de Crète, mais je pense que ça devait être un peu délicat. Donc, Tite a dû retrousser les manches et se positionner pour rappeler un petit peu quelques principes éthiques. Maintenant, je reviens sur ce qui m'a interpellé. Les belles œuvres. Alors, de quoi Paul parle-t-il? Alors, est-ce que les belles œuvres, c'est de donner à manger aux pauvres? Point d'interrogation. Est-ce que c'est de donner de l'argent à l'église ou à la mission? Est-ce que c'est d'aller au culte tous les dimanches? Est-ce que c'est d'être engagé dans les activités de l'église? Est-ce que c'est d'assister à toutes les réunions de l'église? Est-ce que c'est partir en mission? Ou est-ce que c'est de témoigner de Jésus-Christ à notre entourage, que ce soit nos familles, nos amis ou professionnels? Ben, bien sûr que oui, ça en fait partie. Et je dis oui et encore oui, parce que ça au moins c'est du concret et c'est utile. Ça se voit, ça fait du bien, ça nous fait du bien pour soi et aussi pour tous ceux qui nous entourent. Et surtout, ça donne aussi une belle image du Christ. Mais en quoi ce sont de belles œuvres? Parce que le mot entre bonne et belle, dans le passage, en grec, il est différent, hein, c'est pas synonyme. Si on revient au verset 1 du chapitre 3, il dit « Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêts pour toute œuvre bonne. Ne calomnier personne, donc il le dit, d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. » Donc là, Paul mentionne les œuvres bonnes, qui ne sont pas les belles œuvres, mais qui sont les belles œuvres, c'est un cran au-dessus. Les œuvres bonnes sont des œuvres d'obéissance et d'éthique sociale, alors que les belles œuvres intègrent les bonnes œuvres, mais elles rendent compte des actes, des pensées et des comportements, et qui montrent, si vous voulez, qui donne un indice précis sur notre consécration. C'est-à-dire que à partir du moment où on a décidé de se consacrer pleinement à Christ, qu'on passe un cran supérieur, là on peut parler de belle œuvre. Ce sont des choses qui sont des œuvres belles que Paul ordonne à l'Église. Donc il le dit hein, au verset 8, « Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. » Alors le mot « s'applique » montre bien que c'est pas une option de la vie chrétienne, hein, mais c'est un ordre biblique. Alors je crois que Paul voulait, en même temps quand il disait cela, qu'on vive un peu selon son exemple. Il était un modèle, c'est-à-dire qu'il voulait qu'on se dépasse pour Jésus-Christ. Et effectivement, il faut que nos œuvres soient le reflet de ce que Dieu a fait dans nos vies. Pardon. Mais surtout que ce que nous faisons ou ce que nous disons soit une source de bénédiction. Je dirais que c'est là la clé de ce que j'appellerais de belles œuvres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce que nous faisons ou ce que nous disons, ce que nous sommes, nous sommes en bénédiction autour de nous, que nous sommes un témoignage et que nous sommes porteurs de paix, d'apaisement et de bienveillance, à ce moment-là, je pense qu'on peut parler de belles œuvres. Et c'est vrai que l'apôtre Paul le rappelle, il dit « À travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. » Donc le Saint-Esprit nous donne, je dirais, une force surnaturelle, communicative, qui est débordante. Et cette puissance de vie est donnée avec abondance. Bon, bien sûr, elle est donnée à condition que nous la laissions vivre en nous. C'est ainsi que nous atteignons la beauté des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, pour conclure, concrètement, ces choses-là, ça doit se voir, mais sans être spectaculaire, car Paul dit que les belles choses sont là pour être bonnes et utiles pour les autres, et c'est là qu'elles deviennent belles. Alors comment? Bon, ben, il y a plusieurs attitudes, par de la chaleur humaine, par de l'empathie, par de la bienveillance, de la disponibilité, par le sens de l'accueil, par la prière, par l'humilité, le tout dans de la sobriété et de la discrétion. Voilà, bon, je donne quelques indications, hein, ça n'est pas exhaustif, hein, mais je vous ai partagé ce matin un étonnement, une découverte, celle de cette expression biblique de belles œuvres, chose que je n'avais pas vue ou soupçonnés sous cet angle. Donc, ce matin, on a fait un long parcours pour découvrir cela, et je prie pour que cela nous inspire et mette de la lumière dans nos vies. Et que Dieu vous bénisse et nous accompagne dans notre vie de tous les jours. Amen.